bonjour à tous. Nouvelle année et les podcasts d'Écoute reprennent avec un sixième numéro animé par une toute nouvelle équipe d'élèves. Ce sont donc Kylian, Laureline, Marceau, Charlie, Alexandre et Noah, Anaïs, Max, Lorenzo et Louis qui sont ravis de vous présenter leur émission.
Dans ce nouveau numéro, nous vous présenterons tout d'abord quelques nouveautés de notre collège avant d'ouvrir une page mythologie dans laquelle nous vous raconterons le mythe de Poséidon.
Vous trouverez ensuite l'interview d'Alagui, notre nouvelle assistante d'anglais, venue de Gambie. Enfin, Actu Sport conclura le podcast avec quelques infos de notre club local, la JL, et une interview du sélectionneur de l'équipe de France de handball, Guillaume Gilles.
C'est reparti pour une nouvelle année au Collège des Côtes. Nous allons, dans cette rubrique, vous présenter quelques nouveautés de notre entrée. Tout d'abord, le collège a accueilli quelques nouveaux professeurs. Madame Ravi en musique, M. Curtier en mathématiques, M. Varlot en physique-chimie, M. Frenea et M. Vilpini en français notamment. Le club podcast tenait à leur souhaiter la bienvenue. De nombreuses activités sont proposées au collège cette année. Certaines existaient déjà les années précédentes, d'autres sont des nouveautés. Le lundi, les élèves peuvent participer au club des chiffres et des lettres ou au club poésie. Le mardi, un club aéronautique ou du renforcement en anglais sont proposés pour les 4e et 3e. Le jeudi, notre club podcast se réunit et le vendredi, le club théâtre-musique prépare un spectacle musical et le club impression 3D soutient au 2e étage. Le collège est toujours très dynamique avec une association sportive présente chaque midi et le mercredi après-midi, des propositions de spectacles en soirée et encore plein de choses que vous découvrirez au fur et à mesure de l'année.
Cette année, nous inaugurons une nouvelle rubrique dans laquelle nous allons vous présenter un personnage historique ou mythologique de notre choix. Pour cette première rubrique de l'année, notre choix s'est porté sur le dieu grec Poséidon.
Comme vous le savez sûrement, Poséidon est le dieu des mers. Il ressemble à un homme musclé avec des cheveux mi-longs et une barbe. Il possède un trident. Poséidon est le fils de Cronos et Rhea, deux titans, et le frère de Zeus, Hadès, Déméter, Héra et Hestia. Dès sa naissance, il se fait avaler vivant avec ses frères et sœurs par son père, qui craignait de se voir détrôné. Sa mère, pour sauver le dernier-né, Zeus le remplaça par une pierre. Une fois adulte, Zeus libéra sa fratrie du ventre de leur père. Devenu dieu de la mer, Poséidon chevauche un char attelé à des créatures mi-chevaux, mi-dauphins et peut provoquer des tremblements de terre en enfonçant son trident dans la terre. Il est aussi symbolisé par le cheval. On dit souvent que Poséidon est le dieu des océans. Il a un palais d'or au fond des mers. On le connaît également pour être le constructeur des murailles de Troie. Même mécontent de ne pas en être suffisamment récompensé, il prend partie des Achéens durant la guerre de Troie.
Poséidon eut de nombreux enfants avec des déesses et des mortels, par exemple le cheval Pégase, le héros Thésée et le cyclope Polyphème. Ce dernier vivait en ermite sur une île quand Ulysse, le célèbre guerrier, s'y est échoué à son retour de Troie. Quand Polyphème se met à emprisonner les compagnons d'Ulysse et à les dévorer un à un, malin, Ulysse fait croire à Polyphème qu'il s'appelle Personne, et la nuit, alors que le cyclope est ivre, il lui transperce l'œil. Le cyclope hurle à l'aide, criant que Personne l'a blessé. Ulysse et ses compagnons s'enfuient, mais orgueilleux, Ulysse révèle son nom au cyclope avant de partir. Désespéré, Polyphème appelle son père Poséidon à l'aide et le dieu des mers maudit Ulysse, le faisant errer sur les flots pendant des années avant de rentrer chez lui.
Le collège accueille comme chaque année un assistant d'anglais. C'est Alagi, venu de Gambie, qui interviendra dans notre établissement.
Nous sommes ravis de le recevoir et nous allons lui poser quelques questions pour apprendre à le connaître, lui et son pays.
Bonjour Alagi, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Nous n'avions jamais entendu ton prénom auparavant. Est-ce un prénom typique de Gambie?
Ok, Alagi c'est un prénom très populaire en Gambie. C'est quelqu'un qui va à la Mecque, en Arabie Saoudite, il s'appelle Alagi. Je ne suis pas allé à la Mecque, mais mon grand-père était là et il a pris ses noms. Car je suis le premier garçon de mon père, appelé comme son père. C'est comme ça que je prends le prénom Alagi.
Beaucoup d'élèves ignorent où se situe la Gambie. Peux-tu nous parler un peu de ton pays? Où est-il? Quel climat fait-il? Quelle est la capitale?
La Gambie, officiellement, la République de Gambie, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Géographiquement, la Gambie est le plus petit pays d'Afrique continentale. Il est entouré par le Sénégal de tous côtés, à l'exception de la partie occidentale qui est bordée par l'océan Atlantique. Son territoire s'étend de deux côtés du cours inférieur du fleuve Gambie qui traverse le centre du pays et se jette dans l'Atlantique. La Gambie a un climat de savane tropical, une courte saison de pluie dure normalement de juin à septembre, mais à partir de là et jusqu'en mai, les températures plus basses prédominent. La température la plus basse jamais enregistrée était de 7,2 degrés Celsius. Le climat de la Gambie ressemble beaucoup à celui du Sénégal voisin, du Mali et des autres pays. Et les questions administratives. La capitale est Banjul, c'est une île et surtout pour le commerce et les questions administratives, et il y a peu d'habitants dans la capitale.
Nous avons vu que le drapeau de la Gambie comprenait quatre couleurs. Peux-tu nous dire lesquelles et à quoi elles correspondent?
Oui, pour les couleurs du drapeau de la Gambie, la couleur rouge symbolise le soleil et la proximité du pays avec l'équateur. Le band bleu représente le fleuve Gambie, d'où le pays tire son nom. Le vert symbolise la forêt et l'agriculture. Les fines rayures blanches représentent l'unité et la paix.
Quelle langue parle-t-on en Gambie? Comment en es-tu venu à apprendre le français? Est-ce la première fois que tu visites la France?
La langue qu'on parle en Gambie, la langue officielle de Gambie, c'est l'anglais, parce qu'on était colonisé par l'Angleterre. Et les écoles, la plupart des écoles en Gambie sont écoles anglophones, mais il y a aussi des écoles arabes et des écoles françaises où les gens parlent les langues qu'ils apprennent là. Mais lorsque les gens sont rentrés chez nous, et c'est eux, ils parlent les langues locales comme Mandinka, qui forment la majorité de la population, et le Wolof, une langue très populaire, et les gens l'utilisent pour commerce souvent, et Diola Paul, le deuxième, comment dire, le deuxième langage très, très populaire là. J'ai commencé à apprendre la langue française au collège parce que en Gambie c'est obligatoire pour faire français ou les cours français au collège. Mais après le niveau de lycée, parce que j'ai fait sciences pour mon domaine, et il y a des écoles qui n'ont pas le français pour les étudiants qui font sciences, et je fais pas le français au lycée. Mais après, à l'université, c'était aussi obligatoire. J'ai fait 4 cours en français. J'ai pensé que mon niveau de français était trop très bas. Je dois l'améliorer. Je suis allé à Alliance Française, qui est en banlieue, pour prendre le cours français. Ça a été 2019. J'étais là jusqu'à cette année, avant d'arriver en France. Oui, c'est la première fois de visiter France.
Est-ce que tu pratiques un sport? Si oui, lequel? Quels sont les sports les plus pratiqués dans ton pays?
Ah oui, j'ai fait des sports. J'ai joué au foot. J'ai aussi cours, mais le niveau est très bas, pas un niveau très bon. Mais je vais le faire pour s'amuser. Oui, je pense que le sport plus pratiqué en Gambie, c'est football. Mais les gens aussi font des sports traditionnels comme les luttes.
Y a-t-il des fêtes ou des coutumes de la Gambie dont tu peux nous parler?
Les fêtes en Gambie, c'est très connecté aux religions. C'est comme ça les gens fêtent les fêtes là. Pour les musulmans, on a deux grandes fêtes. La fête de la fin du Ramadan et le Tobaski qui s'appelle Eid al-Adha dans la plupart de la monde musulman. Et malgré que la plupart de la population sont musulmans, le Noël est aussi très fêté en Gambie.
Merci Alagi d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que ton année en France sera agréable. Pour terminer notre podcast, nous retrouvons l'habituelle rubrique Actu Sport. Cette année, nous vous parlerons dans chaque émission de l'AJL, le club de basket de Bourges.
Avec nous, suivez les dernières informations concernant le club et les résultats marquants du début de saison.
La grande information du début de saison est la nomination de Frédéric Fautou, l'entraîneur de la JL Bourges, à la tête de l'équipe de France. Il remplace Vincent Collet, qui est resté 15 ans. L'entraîneur des Bleus, sacré vice-champion olympique cet été.
Plusieurs joueurs ont rejoint le collectif en début de saison, tels que Jordan Usher, Xavier Castaneda, Joël Ayayi, Brandon Paul, Jean-Marc Pansa, Adrien Nelson et Mehdi Ngoma. En ce début de saison, c'est Xavier Castaneda qui a retenu notre attention.
Arrière de petite taille, il sort d'une saison très intéressante en Grèce, à Lavrio. Des nombreuses convoitises et propositions européennes. C'est celle de la JL Bourges que le natif de Chicago a retenu pour poursuivre sa progression.
Petit gabarit avec ses 1m83, Xavier s'appuie sur des qualités physiques et athlétiques de très haut niveau pour affirmer ses instincts de scoreur. Avec de nombreux matchs à plus de 30 points ces deux dernières années, nous lui souhaitons une bonne saison au sein de la JL Bourges.
La JL Bourges réalise un beau début de saison. L'équipe est 5e du championnat après 3 matchs. Ils ont battu Le Portel 84-65 et Nanterre 86-61, mais ont été vaincus par l'ASVEL 85-94 en Eurocup. La JL Bourges compte 3 victoires en 3 matchs face à Hambourg, Cluj-Napoca et Venise.
Pour conclure notre podcast, nous recevons Guillaume Gilles, sélectionneur de l'équipe de France de handball, ancien handballeur international. Il a remporté les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et d'Europe. Très jeune, Guillaume Gilles a intégré le sport-études de Chambéry où il a débuté sa carrière jusqu'en 2002. À cette date, il signe au HSV Hambourg, prestigieux club allemand, où il va rester 10 ans. En parallèle à sa carrière en club, Guillaume Gilles a intégré l'équipe de France en 1996, remportant de nombreux succès. En 2020, il devient le sélectionneur de l'équipe nationale. Bonjour Guillaume Gilles, et merci de bien vouloir répondre à nos questions.
Bonjour à tous, Guillaume Gilles. Je suis ravi de participer au club podcast du Collège des Côtes à Péronas, et merci encore pour ces questions auxquelles je vais essayer de répondre.
On vous surnomme Gino. D'où provient ce surnom ?
Mon surnom Gino me vient du lycée, ou alors que j'étais en cours d'histoire-géographie. J'ai une écriture un peu spéciale, je suis gaucher, et j'avais très mal écrit mon nom pour un devoir. Et la professeure rendait les copies et elle les distribuait en annonçant les noms de chacun. Et elle annonce une copie en prononçant le nom de Gino. Alors on lui dit, madame, il n'y a pas de Gino dans notre classe. Et effectivement, il n'y en avait pas. Et donc la feuille est passée de table en table jusqu'à arriver sous mon nez. Et je me suis aperçu que c'était Gilles qui était très très mal écrit.
Vous avez débuté le handball très jeune à Chambéry. Quel était le joueur qui vous faisait rêver quand vous étiez petit ?
Quand j'ai débuté le handball, je l'ai débuté dans la Drôme, dans un petit club qui s'appelle L'Oriole. Et donc c'est une région où il n'y avait pas de handball de haut niveau, pas d'équipe en première division. Donc quand j'ai débuté, j'avais pas forcément d'idole, où il n'y avait personne de marquant qui... à laquelle je m'identifiais. Donc les premiers souvenirs que j'ai du handball de haut niveau, c'est l'épopée des Barjots en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone, où pour la première fois dans l'histoire du handball, une équipe de France était en mesure de glaner une médaille de bronze à ces Jeux Olympiques, et c'est ça qui m'avait véritablement marqué en tant que jeune handballeur.
Entre Hambourg et Chambéry, quelle différence faites-vous sur ces deux clubs dans lesquels vous avez évolué ?
J'ai eu la chance d'évoluer dans deux clubs dans ma carrière professionnelle, Chambéry en Savoie et Hambourg dans le nord de l'Allemagne. Donc ces deux clubs ont particulièrement marqué mon parcours. Le premier avec Chambéry parce qu'on est parti d'un tout petit club qui venait de monter en première division, et on se retrouvait année après année, saison après saison, à monter dans la hiérarchie nationale, à être en mesure de, en progressant, de nous bagarrer avec les meilleurs jusqu'à remporter des titres nationaux, la Coupe, le championnat, la Coupe de la Ligue. Et donc l'impression d'avoir à Chambéry construit énormément de choses, d'avoir écrit des belles pages de l'histoire de ce club, en ayant eu la chance de passer par toutes les étapes de l'équipe qui prend des raclées régulières face aux cadres du championnat, à l'équipe qui après quelques années est en capacité aussi de dominer le championnat de France. Hambourg est arrivé après, dans un moment où ma carrière avait pris son envol et où l'envie de nouveaux challenges était présente. J'avais envie de me retrouver dans un contexte différent, de me mesurer au meilleur, et la Bundesliga était le championnat qui m'attirait le plus. Et Hambourg, j'y suis parti avec mon frère Bertrand. Et là-bas aussi, on est arrivé dans un club qui avait de grandes ambitions, mais qui partait lui aussi de très bas dans la hiérarchie nationale. Et donc, on a là aussi contribué à la construction de cette équipe, à ses premiers résultats et le fait d'en faire une place forte du championnat allemand. Donc, entre Chambéry et Hambourg, finalement, beaucoup de similitudes dans des clubs qui se sont beaucoup structurés avant d'obtenir de la réussite. Et à titre perso, l'impression d'avoir été une sorte de bâtisseur ou d'avoir contribué à faire grandir ces structures.
Vous avez intégré l'équipe de France en 1996. Vous souvenez-vous de votre premier match international ? Quel était votre entraîneur alors ?
Ma première sélection en équipe de France a eu lieu effectivement en 1996. C'était un match contre la Yougoslavie. Alors c'est souvent des souvenirs marquants parce que c'est les premières fois. C'est les moments où on a la chance d'avoir son premier maillot, de chanter sa première Marseillaise, de marquer son premier but. Donc c'est un événement qui avait été très fort émotionnellement parlant. Et à cette époque-là, mon entraîneur était Daniel Costantini, un entraîneur emblématique du handball français son égide a fait grandir le handball français d'une manière incroyable. On est passé d'une nation qui était très loin dans le ranking international à un des prétendants au titre dans chaque compétition.
Quel titre remporté en tant que joueur vous a le plus marqué ?
Je vous parlais des premières fois et les titres qui m'ont le plus marqué, à la fois c'est le premier titre de champion du monde en 2001 avec l'équipe de France. Un mondial que l'on joue à domicile en France et qui nous fait passer par toutes les émotions et la joie de gagner à Bercy, dans un Bercy chaud bouillant face à la Suède reste un événement marquant. Mais le premier titre européen aussi d'une équipe de France de handball en 2006 avec une nouvelle génération. C'est un souvenir aussi qui est vraiment excellent et un qui peut-être dépasse tous les autres. C'est le premier titre olympique en 2008 à Pékin où le handball français a toujours été marqué par l'histoire olympique. On parlait des Barjots de Barcelone tout à l'heure. Pour moi, cette compétition a toujours eu une connotation très très spéciale, et le fait de pouvoir être en mesure de remporter ce titre, d'être champion olympique, ça a été un accomplissement incroyable et une aventure humaine folle. Donc vraiment vraiment difficile de choisir entre des titres. Je fais partie de ceux qui sont privilégiés parce qu'on a eu la chance avec les différentes équipes de France de gagner à de très nombreuses reprises.
Vous êtes devenu sélectionneur des Bleus en 2020. Quelles sont les qualités, à votre avis, nécessaires pour ce poste ?
Oui, je suis devenu le sélectionneur de l'équipe de France de handball en 2020. Difficile de faire ressortir une qualité nécessaire pour ce poste. C'est un poste où on est exposé, engagé, parce que le dernier décideur, le responsable du projet, et donc souvent dans l'évaluation qui est très liée aux résultats obtenus, quand la performance n'est pas au rendez-vous, c'est souvent le sélectionneur qui en subit les conséquences. Donc en termes de qualité, il y a besoin de beaucoup d'observations, de beaucoup d'écoute et en même temps de leadership pour pouvoir piloter ce projet, qui est un projet complexe hein, avec un staff autour de moi qui est important et des joueurs qui viennent de tous les horizons et qu'il faut faire jouer ensemble et qu'il faut arriver à fédérer autour de projets communs.
Qu'avez-vous ressenti cet été lors de l'élimination prématurée de l'équipe de France au JO ? Est-ce que cela a été difficile à surmonter ?
L'élimination en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été très très difficile à digérer, avec beaucoup de frustration liée au scénario du match qui était incroyable et un match que l'on domine mais que l'on n'arrive pas à gagner, avec une fin assez incroyable de temps réglementaire. Donc ça a été difficile à surmonter, il a fallu digérer comme une immense déception qui était liée aussi à l'investissement que l'on avait mis dans ce projet, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement pour faire en sorte de briller à ces Jeux Olympiques en France qui étaient fantastiques. Et malheureusement, on n'a pas su trouver le chemin vers ce dernier carré. Donc être confronté à l'échec, être confronté à la réussite, c'est comme dans la vie, comme dans tous les secteurs. C'est pas simple, il faut savoir en tirer les enseignements pour repartir, se poser de nouveaux challenges, et il y en a plein avec l'équipe de France, notamment dès janvier avec le prochain championnat du monde.
Finalement, entre joueur et sélectionneur, où trouvez-vous le plus de satisfaction ?
Joueur, sélectionneur, où est-ce que je trouve le plus de satisfaction ? C'est compliqué de comparer ces deux fonctions. En tant que joueur, on a la chance d'avoir le ballon en main, on a la chance de pouvoir directement agir sur, sur les situations, sur le déroulé d'un match. En tant que sélectionneur, on est à côté, on est celui qui régule, qui aide un groupe à trouver les meilleurs ajustements pour répondre à des problématiques face à un adversaire. Donc c'est deux sentiments très différents, et malgré tout, quand je compare les situations d'échec ou de réussite en tant que joueur ou que sélectionneur, bah, les sentiments qui me viennent sont les mêmes, à savoir énormément de joie, de plaisir, de voir nos compétitions couronnées de succès, et beaucoup de difficultés, de tristesse quand on n'est pas en mesure de répondre à nos objectifs. Donc ça reste semblable dans ces termes. C'est souvent un peu plus à distance en tant que sélectionneur, parce que encore une fois, on pilote, mais on pilote une voiture sur laquelle on n'a pas les mains sur le volant.
Merci Guillaume Gilles de nous avoir accordé du temps.
J'espère que ces quelques réponses vous auront permis de mieux comprendre mon métier, mon parcours, mon contact de l'équipe de France. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente réussite et à très vite.
C'est ainsi que s'achève notre nouveau podcast des Côtes. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Nous nous retrouverons bientôt pour un autre épisode de l'émission.